Lettre 140, le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Comment donc se fait-il, ma belle amie, que je ne reçoive point de réponse de vous? Ma dernière lettre, pourtant, me paraissait en mériter une, et depuis 3 jours que je devrais l'avoir reçue, je l'attends encore. Je suis fâchée, au moins. Aussi ne vous parlerai-je pas du tout de mes grandes affaires. Que le raccommodement ait eu son plein effet, qu'au lieu de reproches et de méfiance, il n'ait produit que de nouvelles tendresses, que ce soit moi, actuellement, qui reçoive les excuses et les réparations dues à ma candeur soupçonnée, je ne vous en dirai mot. Et sans l'événement imprévu de la nuit dernière, je ne vous écrirai pas du tout. Mais comme celui-là regarde votre pupille, et que vraisemblablement, elle ne sera pas dans le cas de vous en informer elle-même, au moins de quelque temps, je me charge de ce soin. Par des raisons que vous devinerez ou que vous ne devinerez pas, Madame de Tourvel ne m'occupait plus depuis quelques jours. Et comme ces raisons-là ne pouvaient exister chez la petite Volanges, j'en étais devenue plus assidue auprès d'elle. Grâce à l'obligeant portier, je n'avais aucun obstacle à vaincre, et nous menions, votre pupille et moi, une vie commode et réglée. Mais l'habitude amène la négligence. Les premiers jours, nous n'avions jamais pris assez de précautions pour notre sûreté. Nous tremblions encore derrière les verrous. Hier, une incroyable distraction a causé l'accident dont j'ai à vous instruire. Et si pour mon compte j'en ai été quitte pour la peur, il en coûte plus cher à la petite fille. Nous ne dormions pas, mais nous étions dans le repos et l'abandon qui suivent la volupté, quand nous avons entendu la porte de la chambre s'ouvrir tout à coup. Aussitôt je saute à mon épée, tant pour ma défense que pour celle de notre commune pupille. Je m'avance et ne vois personne. Mais en effet, la porte était ouverte. Comme nous avions de la lumière, j'étais à la recherche et n'ai trouvé âme qui vive. Alors je me suis rappelé que nous avions oublié nos précautions ordinaires. Et sans doute, la porte poussée seulement, ou mal fermée, s'était rouverte d'elle-même. En allant rejoindre ma timide compagne pour la tranquilliser, je ne l'ai plus trouvée dans son lit. Elle était tombée ou s'était sauvée dans sa ruelle. Enfin, elle y était étendue sans connaissance, et sans autre mouvement que d'assez fortes convulsions. Jugez de mon embarras. Je parvins pourtant à la remettre dans son lit et même à la faire revenir. Mais elle s'était blessée dans sa chute, et elle ne tarda pas à en ressentir les effets. Des maux de reins, de violentes coliques, des symptômes moins équivoques encore, m'ont eu bientôt éclairé sur son état. Mais pour le lui apprendre, il a fallu lui dire d'abord celui où elle était auparavant, car elle ne s'en doutait pas. Jamais peut-être, jusqu'à elle, on avait conservé tant d'innocence en faisant si bien tout ce qu'il fallait pour s'en défaire. Oh, celle-là ne perd pas son temps à réfléchir. Mais elle en perdait beaucoup à se désoler, et je sentais qu'il fallait prendre un parti. Je suis donc convenue avec elle que j'irais sur le champ chez le médecin et le chirurgien de la maison, et qu'en les prévenant qu'on allait venir les chercher, je leur confierais le tout sous le secret. Qu'elle, de son côté, sonnerait sa femme de chambre, qu'elle lui ferait ou ne lui ferait pas sa confidence comme elle voudrait, mais qu'elle l'enverrait chercher du secours, et défendrait surtout qu'on réveillât Madame de Volanges. Attention délicate et naturelle d'une fille qui craint d'inquiéter sa mère. J'ai fait mes 2 courses et mes 2 confessions le plus lestement que j'ai pu, et de là je suis rentrée chez moi, d'où je ne suis pas encore sortie. Mais le chirurgien, que je connaissais d'ailleurs, est venu à midi me rendre compte de l'état de la malade. Je ne m'étais pas trompée. Mais il espère que, s'il ne survient pas d'accident, on ne s'apercevra de rien dans la maison. La femme de chambre est du secret, le médecin a donné un nom à la maladie, et cette affaire s'arrangera comme 1000 autres, à moins que par la suite il ne nous soit utile qu'on en parle. Mais y a-t-il encore quelque intérêt commun entre vous et moi? Votre silence m'en ferait douter. Je n'y croirais même plus du tout, si le désir que j'en ai ne me faisait chercher tous les moyens d'en conserver l'espoir. Adieu, ma belle amie. Je vous embrasse, rancune tenante. Paris, ce 21 novembre 1700. Lettre 141, la marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Mon Dieu, vicomte, que vous me gênez par votre obstination. Que vous importe mon silence? Croyez-vous, si je le garde, que ce soit faute de raison pour me défendre? Ah, plût à Dieu! Mais non, c'est seulement qu'il m'en coûte de vous les dire. Parlez-moi vrai. Vous faites-vous illusion à vous-même ou cherchez-vous à me tromper? La différence entre vos discours et vos actions ne me laisse de choix qu'entre ces deux sentiments. Lequel est le véritable? Que voulez-vous donc que je vous dise, quand moi-même je ne sais que penser? Vous paraissez vous faire un grand mérite de votre dernière scène avec la présidente. Mais qu'est-ce donc qu'elle prouve pour votre système ou contre le mien? Assurément, je ne vous ai jamais dit que vous aimiez assez cette femme pour ne pas la tromper, pour n'en pas saisir toutes les occasions qui vous paraîtraient agréables ou faciles. Je ne doutais même pas qu'il ne vous fût à peu près égal de satisfaire avec une autre, avec la première venue, jusqu'au désir que celle-ci seule aurait fait naître. Et je ne suis pas surprise que pour un libertinage d'esprit qu'on aurait tort de vous disputer, vous ayez fait une fois, par projet, ce que vous aviez fait mille autres par occasion. Qui ne sait que c'est là le simple courant du monde, et votre usage à tous tant que vous êtes, depuis le scélérat jusqu'aux espèces. Celui qui s'en abstient aujourd'hui passe pour romanesque, et ce n'est pas là, je crois, le défaut que je vous reproche. Mais ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé, ce que je pense encore, c'est que vous n'en avez pas moins de l'amour pour votre présidente. Non pas à la vérité, de l'amour bien pur ni bien tendre, mais de celui que vous pouvez avoir, de celui, par exemple, qui fait trouver à une femme les agréments ou les qualités qu'elle n'a pas, qui la place dans une classe à part et met toutes les autres en second ordre, qui vous tient encore attachée à elle, même alors que vous l'outragez. Tel enfin que je conçois qu'un sultan peut le ressentir pour sa sultane favorite, ce qui ne l'empêche pas de lui préférer souvent une simple odalisque. Ma comparaison me paraît d'autant plus juste que, comme lui, jamais vous n'êtes ni l'amant ni l'ami d'une femme, mais toujours son tyran ou son esclave. Aussi suis-je bien sûr que vous vous êtes bien humilié et trop heureux d'y être parvenu, dès que vous croyez le moment arrivé d'obtenir votre pardon, vous me quittez pour ce grand événement. Encore, dans votre dernière lettre, si vous ne m'y parlez pas de cette femme uniquement, c'est que vous ne voulez m'y dire rien de vos grandes affaires. Elle vous semble si importante que le silence que vous gardez à ce sujet vous semble une punition pour moi. Et c'est après ces mille preuves de votre préférence décidée pour une autre que vous me demandez tranquillement s'il y a encore quelque intérêt commun entre vous et moi. Prenez-y garde, vicomte. Si une fois je réponds, ma réponse sera irrévocable. Et craindre de la faire en ce moment, c'est peut-être déjà en dire trop. Aussi, je n'en veux absolument plus parler. Tout ce que je peux faire, c'est de vous raconter une histoire. Peut-être n'aurez-vous pas le temps de la lire ou celui d'y faire assez attention pour la bien entendre. Libre à vous. Ce ne sera au pis-aller qu'une histoire de perdu. Un homme de ma connaissance s'était empêtré, comme vous, d'une femme qui lui faisait peu d'honneur. Il avait bien, par intervalle, le bon esprit de sentir que, tôt ou tard, cette aventure lui ferait tort. Mais quoi qu'il en rougît, il n'avait pas le courage de rompre. Son embarras était d'autant plus grand qu'il s'était vanté à ses amis d'être entièrement libre, et qu'il n'ignorait pas que le ridicule qu'on a augmente toujours en proportion qu'on s'en défend. Il passait ainsi sa vie, ne cessant de faire des sottises, et ne cessant de dire après « Ce n'est pas ma faute ». Cet homme avait une amie qui fut tenté un moment de le livrer au public en cet état d'ivresse, et de rendre ainsi son ridicule ineffaçable. Mais pourtant, plus généreuse que maligne, ou peut-être encore par quelque autre motif, elle voulut tenter un dernier moyen pour être, à tout événement, dans le cas de dire, comme son ami, « Ce n'est pas ma faute ». Elle lui fit donc parvenir, sans aucun autre avis, la lettre qui suit, comme un remède dont l'usage pourrait être utile à son mal. On s'ennuie de tout, mon ange. C'est une loi de la nature. Ce n'est pas ma faute. Si donc je m'ennuie aujourd'hui d'une aventure qui m'a occupée entièrement depuis 4 mortels mois, ce n'est pas ma faute. Si par exemple, j'ai eu juste autant d'amour que toi de vertu, et c'est sûrement beaucoup dire, il n'est pas étonnant que l'un ait fini en même temps que l'autre. Ce n'est pas ma faute. Il suit de là que depuis quelque temps, je t'ai trompée. Mais aussi ton impitoyable tendresse m'y forçait en quelque sorte. Ce n'est pas ma faute. Aujourd'hui, une femme que j'aime éperdument exige que je te sacrifie. Ce n'est pas ma faute. Je sens bien que voilà une belle occasion de crier au parjure. Mais si la nature n'a accordé aux hommes que la constance, tandis qu'elle donnait aux femmes l'obstination, ce n'est pas ma faute. Crois-moi, choisis un autre amant, comme j'ai fait une autre maîtresse. Ce conseil est bon, très bon. Si tu le trouves mauvais, ce n'est pas ma faute. Adieu, mon ange. Je t'ai prise avec plaisir, je te quitte sans regret. Je te reviendrai peut-être. Ainsi va le monde, ce n'est pas ma faute. De vous dire, vicomte, l'effet de cette dernière tentative et ce qui s'en est suivi, ce n'est pas le moment. Mais je vous promets de vous le dire dans ma première lettre. Vous y trouverez aussi mon ultimatum sur le renouvellement du traité que vous me proposez. Jusque-là, adieu, tout simplement. À propos, je vous remercie de vos détails sur la petite Volange. C'est un article à réserver jusqu'au lendemain du mariage pour la Gazette de Médisance. En attendant, je vous fais mon compliment de condoléance sur la perte de votre postérité. Bonsoir, vicomte. Du château de ce 24 novembre 1700. Lettre 142, le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Ma foi, ma belle amie, je ne sais si j'ai mal lu ou mal entendu, et votre lettre et l'histoire que vous m'y faites et le petit modèle épistolaire qui y était compris. Ce que je puis vous dire, c'est que ce dernier m'a paru original et propre à faire de l'effet. Aussi je l'ai copié tout simplement, et tout simplement encore, je l'ai envoyé à la céleste présidente. Je n'ai pas perdu un moment, car la tendre missive a été expédiée dès hier au soir. Je l'ai préférée ainsi, parce que d'abord je lui avais promis de lui écrire hier, et puis aussi parce que j'ai pensé qu'elle n'aurait pas trop de toute la nuit pour se recueillir et méditer sur ce grand événement. Dussiez-vous une seconde fois me reprocher l'expression ? J'espérais pouvoir vous envoyer ce matin la réponse de ma bien-aimée, mais il est près de midi et je n'ai encore rien reçu. J'attendrai jusqu'à 5 heures, et si alors je n'ai pas eu de nouvelles, j'irai en chercher moi-même. Car surtout en procédé, il n'y a que le premier pas qui coûte. À présent, comme vous pouvez croire, je suis fort empressée d'apprendre la fin de l'histoire de cet homme de votre connaissance, si véhémentement soupçonné de ne savoir pas, au besoin, sacrifier une femme. Ne se sera-t-il pas corrigé ? Et sa généreuse amie, ne lui aura-t-elle pas fait grâce ? Je ne désire pas moins de recevoir votre ultimatum, comme vous dites si politiquement. Je suis curieux, surtout, de savoir si dans cette dernière démarche, vous trouverez encore de l'amour. Ah, sans doute, il y en a, et beaucoup. Mais pour qui ? Cependant, je ne prétends rien faire valoir, et j'attends tout de vos bontés. Adieu, ma charmante amie. Je ne fermerai cette lettre qu'à 2 heures, dans l'espoir de pouvoir y joindre la réponse désirée. À 2 heures après-midi, toujours rien. L'heure me presse beaucoup. Je n'ai pas le temps d'ajouter un mot. Mais cette fois, refuserez-vous encore les plus tendres baisers de l'amour ? Paris, ce 27 novembre 1700. Lettre 143, la présidente de Tourvel à Madame de Rosemonde. Le voile est déchiré, madame, sur lequel était peinte l'illusion de mon bonheur. La funeste vérité m'éclaire et ne me laisse voir qu'une mort assurée et prochaine, dont la route m'est tracée entre la honte et le remords. Je la suivrai. Je chérirai mes tourments s'ils abrègent mon existence. Je vous envoie la lettre que j'ai reçue hier. Je n'y joindrai aucune réflexion. Elle les porte avec elle. Ce n'est plus le temps de se plaindre, il n'y a plus qu'à souffrir. Ce n'est pas de pitié que j'ai besoin, c'est de force. Recevez, madame, le seul adieu que je ferai, et exaucez ma dernière prière. C'est de me laisser à mon sort, de m'oublier entièrement, de ne plus me compter sur la terre. Il est un terme dans le malheur, où l'amitié même augmente nos souffrances et ne peut les guérir. Quand les blessures sont mortelles, tout secours devient inhumain. Tout autre sentiment m'est étranger que celui du désespoir. Rien ne peut plus me convenir que la nuit profonde où je vais ensevelir ma honte. J'y pleurerai mes fautes si je puis pleurer encore. Car depuis hier, je n'ai pas versé une larme. Mon cœur flétri n'en fournit plus. Adieu, madame. Ne me répondez point. J'ai fait le serment sur cette lettre cruelle de n'en plus recevoir aucune. Paris, ce 27 novembre 1700. Lettre 144, le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Hier, à 3 heures du soir, ma belle amie, impatientée de n'avoir pas de nouvelles, je me suis présentée chez la belle délaissée. On m'a dit qu'elle était sortie. Je n'ai vu dans cette phrase qu'un refus de me recevoir qui ne m'a ni fâchée ni surpris. Et je me suis retirée, dans l'espérance que cette démarche engagerait au moins une femme si polie à m'honorer d'un mot de réponse. L'envie que j'avais de la recevoir m'a fait passer exprès chez moi vers les 9 heures, et je n'y ai rien trouvé. Étonnée de ce silence auquel je ne m'attendais pas, j'ai chargé mon chasseur d'aller aux informations et de savoir si la sensible personne était morte ou mourante. Enfin, quand je suis rentrée, il m'a appris que Madame de Tourvel était sortie en effet à 11 heures du matin avec sa femme de chambre, qu'elle s'était fait conduire au couvent de... et qu'à 7 heures du soir, elle avait renvoyé sa voiture et ses gens en faisant dire qu'on ne l'attendit pas chez elle. Assurément, c'est se mettre en règle. Le couvent est le véritable asile d'une veuve, et si elle persiste dans une résolution si louable, je joindrai à toutes les obligations que je lui ai déjà celle de la célébrité que va prendre cette aventure. Je vous le disais bien il y a quelque temps, que malgré vos inquiétudes, je ne reparaîtrai sur la scène du monde que brillant d'un nouvel éclat. Qu'ils se montrent donc, ces critiques sévères, qui m'accusaient d'un amour romanesque et malheureux, qu'ils fassent des ruptures plus promptes et plus brillantes. Mais non, qu'ils fassent mieux, qu'ils se présentent comme consolateurs, la route leur est tracée. Eh bien, qu'ils osent seulement tenter cette carrière que j'ai parcourue en entier. Et si l'un d'eux obtient le moindre succès, je lui cède la première place. Mais ils éprouveront tous que, quand j'y mets du soin, l'impression que je laisse est ineffaçable. Ah, sans doute, celle-ci le sera, et je compterai pour rien tous mes autres triomphes si jamais je devais avoir auprès de cette femme un rival préféré. Ce parti qu'elle a pris flatte mon amour-propre, j'en conviens. Mais je suis fâchée qu'elle ait trouvé en elle une force suffisante pour se séparer autant de moi. Il n'y aura donc entre nous deux d'autres obstacles que ceux que j'aurais mis moi-même. Quoi ? Si je voulais me rapprocher d'elle, elle pourrait ne le plus vouloir. Que dis-je ? Ne le pas désirer, n'en plus faire son suprême bonheur. Est-ce donc ainsi qu'on aime ? Et croyez-vous, ma belle amie, que je doive le souffrir ? Ne pourrais-je pas, par exemple ? Et ne vaudrait-il pas mieux tenter de ramener cette femme au point de prévoir la possibilité d'un raccommodement, qu'on désire toujours tant qu'on l'espère? Je pourrais essayer cette démarche sans y mettre d'importance, et par conséquent sans qu'elle vous donnât d'ombrage. Au contraire, ce serait un simple essai que nous ferions de concert, et quand même je réussirais, ce ne serait qu'un moyen de plus de renouveler, à votre volonté, un sacrifice qui a paru vous être agréable. À présent, ma belle amie, il me reste à en recevoir le prix, et tous mes vœux sont pour votre retour. Venez donc vite retrouver votre amant, vos plaisirs, vos amis et le courant des aventures. Celle de la petite Volange a tourné à merveille. Hier, que mon inquiétude ne me permettait pas de rester en place, j'ai été dans mes courses différentes jusque chez Madame de Volange. J'ai trouvé votre pupille déjà dans le salon, encore dans le costume de malade, mais en pleine convalescence, et n'en étant que plus fraîche et plus intéressante. Vous autres femmes, en pareil cas, vous seriez restées un mois sur votre chaise longue. Ma foi, vive les demoiselles ! Celle-ci m'a en vérité donné envie de savoir si la guérison était parfaite. J'ai encore à vous dire que cet accident de la petite fille a pensé rendre fou votre sentimentaire, Danceny. D'abord, c'était de chagrin. Aujourd'hui, c'est de joie. Sa Cécile était malade. Vous jugez que la tête tourne dans un tel malheur. 3 fois par jour, il envoyait savoir des nouvelles, et n'en passait aucun sans s'y présenter lui-même. Enfin, il a demandé, par une belle épître à la maman, la permission d'aller la féliciter sur la convalescence d'un objet si cher. Et Madame de Volange y a consenti, si bien que j'ai trouvé le jeune homme établi comme par le passé, à un peu de familiarité près qu'il n'osait encore se permettre. C'est de lui-même que j'ai su ces détails, car je suis sortie en même temps que lui et je l'ai fait jaser. Vous n'avez pas idée de l'effet que cette visite lui a causé. C'est une joie, ce sont des désirs, des transports impossibles à rendre. Moi qui aime les grands mouvements, j'ai achevé de lui faire perdre la tête, en l'assurant que sous très peu de jours, je le mettrais à même de voir sa belle de plus près encore. En effet, je suis décidée à la lui remettre, aussitôt après mon expérience faite. Je veux me consacrer à vous tout entier. Et puis, vaudrait-il la peine que votre pupille fût aussi mon élève, si elle ne devait tromper que son mari? Le chef-d'œuvre est de tromper son amant, et surtout son premier amant, car pour moi, je n'ai pas à me reprocher d'avoir prononcé le mot d'amour. Adieu, ma belle amie. Revenez donc au plus tôt jouir de votre empire sur moi, en recevoir l'hommage et m'en payer le prix. Paris, ce 28 novembre 1700. Lettre 145, la marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Sérieusement, vicomte, vous avez quitté la présidente? Vous lui avez envoyé la lettre que je vous avais faite pour elle? En vérité, vous êtes charmant et vous avez surpassé mon attente. J'avoue de bonne foi que ce triomphe me flatte plus que tout ce que j'ai pu obtenir jusqu'à présent. Vous allez trouver peut-être que j'ai valu bien haut cette femme que naguère j'appréciais si peu. Point du tout. Mais c'est que ce n'est pas sur elle que j'ai remporté cet avantage. C'est sur vous. Voilà le plaisant et ce qui est vraiment délicieux. Oui, vicomte, vous aimiez beaucoup Madame de Tourvel, et même, vous l'aimez encore. Vous l'aimez comme un fou, mais parce que je m'amusais à vous en faire honte, vous l'avez bravement sacrifié. Vous en auriez sacrifié 1000, plutôt que de souffrir une plaisanterie. Où nous conduit pourtant la vanité? Le sage a bien raison quand il dit qu'elle est l'ennemie du bonheur. Où en seriez-vous à présent, si je n'avais voulu que vous faire une malice? Mais je suis incapable de tromper, vous le savez bien, et dussiez-vous à mon tour me réduire au désespoir et au couvent, j'encours les risques, et je me rends à mon vainqueur. Cependant, si je capitule, c'est en vérité pure faiblesse, car si je voulais, que de chicanes n'aurais-je pas encore à faire, et peut-être le mériteriez-vous. J'admire, par exemple, avec quelle finesse ou quelle gaucherie vous me proposez en douceur de vous laisser renouer avec la présidente. Il vous conviendrait beaucoup, n'est-ce pas, de vous donner le mérite de cette rupture sans y perdre les plaisirs de la jouissance. Et comme alors cet apparent sacrifice n'en serait plus un pour vous, vous m'offrez de le renouveler à ma volonté. Par cet arrangement, la céleste dévote se croirait toujours l'unique choix de votre cœur, tandis que je m'enorgueillirais d'être la rivale préférée. Nous serions trompés toutes deux, mais vous seriez contents, et qu'importe le reste. C'est dommage qu'avec tant de talent pour les projets, vous en ayez si peu pour l'exécution, et que par une seule démarche inconsidérée, vous ayez mis vous-même un obstacle invincible à ce que vous désirez le plus. Quoi ? Vous aviez l'idée de renouer, et vous avez pu écrire ma lettre ? Vous m'avez donc cru bien gauche à mon tour. Ah, croyez-moi, vicomte, quand une femme frappe dans le cœur d'une autre, elle manque rarement de trouver l'endroit sensible, et la blessure est incurable. Tandis que je frappais celle-ci, ou plutôt que je dirigeais vos coups, je n'ai pas oublié que cette femme était ma rivale, que vous l'aviez trouvée un moment préférable à moi, et qu'enfin, vous m'aviez placée au-dessous d'elle. Si je me suis trompée dans ma vengeance, je consens à emporter la faute. Ainsi, je trouve bon que vous tentiez tous les moyens. Je vous y invite même, et vous promets de ne pas me fâcher de vos succès si vous parvenez à en avoir. Je suis si tranquille sur cet objet que je ne veux plus m'en occuper. Parlons d'autre chose. Par exemple, de la santé de la petite Volange. Vous m'en direz des nouvelles positives à mon retour, n'est-il pas vrai? Je serai bien aise d'en avoir. Après cela, ce sera à vous de juger s'il vous conviendra mieux de remettre la petite fille à son amant, ou de tenter de devenir une seconde fois le fondateur d'une nouvelle branche des Valmont sous le nom de Gercourt. Cette idée m'avait paru assez plaisante, et en vous en laissant le choix, je vous demande pourtant de ne pas prendre de parti définitif sans que nous en ayons causé ensemble. Ce n'est pas vous remettre à un temps éloigné, car je serai à Paris incessamment. Je ne peux pas vous dire positivement le jour, mais vous ne doutez pas que dès que je serai arrivé, vous n'en soyez le premier informé. Adieu, vicomte. Malgré mes querelles, mes malices et mes reproches, je vous aime toujours beaucoup et je me prépare à vous le prouver. Au revoir, mon ami. Du château de ce 29 novembre 1700. Lettre 146, la marquise de Merteuil au chevalier Danceny. Enfin, je pars, mon jeune ami, et demain au soir, je serai de retour à Paris. Au milieu de tous les embarras qu'entraîne un déplacement, je ne recevrai personne. Cependant, si vous avez quelques confidences bien pressées à me faire, je veux bien vous accepter de la règle générale. Mais je n'accepterai que vous. Aussi, je vous demande le secret sur mon arrivée. Valmont même n'en sera pas instruit. Qui m'aurait dit, il y a quelque temps, que bientôt vous auriez ma confiance exclusive? Je ne l'aurais pas cru. Mais la vôtre a entraîné la mienne. Je serais tentée de croire que vous y aviez mis de l'adresse, peut-être même de la séduction. Cela serait bien mal au moins. Au reste, elle ne serait pas dangereuse à présent. Vous avez vraiment bien autre chose à faire. Quand l'héroïne est en scène, on ne s'occupe guère de la confidente. Aussi n'avez-vous seulement pas eu le temps de me faire part de vos nouveaux succès. Quand votre Cécile était absente, les jours n'étaient pas assez longs pour écouter vos tendres plaintes. Vous les auriez faites aux échos si je n'avais pas été là pour les entendre. Quand depuis elle a été malade, vous m'avez même encore honoré du récit de vos inquiétudes. Mais vous aviez besoin de quelqu'un à qui les dire. Mais à présent, que celle que vous aimez est à Paris, qu'elle se porte bien, et surtout que vous la voyez quelquefois, elle suffit à tout, et vos amis ne vous sont plus rien. Je ne vous en blâme pas. C'est la faute de vos 20 ans. Depuis Alcibiade jusqu'à nous, ne sait-on pas que les jeunes gens n'ont jamais connu l'amitié que dans leur chagrin? Le bonheur les rend quelquefois indiscrets, mais jamais confiants. Je dirais bien, comme Socrate, j'aime que mes amis viennent à moi quand ils sont malheureux. Mais en sa qualité de philosophe, il se passait bien d'eux quand ils ne venaient pas. En cela, je ne suis pas tout à fait si sage que lui, et j'ai senti votre silence avec toute la faiblesse d'une femme. N'allez pourtant pas me croire exigeante, il s'en faut bien que je le sois. Le même sentiment qui me fait remarquer ces privations me les fait supporter avec courage, quand elles sont la preuve ou la cause du bonheur de mes amis. Je ne compte donc sur vous pour demain au soir qu'autant que l'amour vous laissera libre et désoccupé, et je vous défends de me faire le moindre sacrifice. Adieu, chevalier, je me fais une vraie fête de vous revoir. Viendrez-vous ? Du château de ce 29 novembre 1700. Lettre 147, Madame de Volanges à Madame de Rosemonde. Vous serez sûrement aussi affligée que je le suis, ma digne amie, en apprenant l'état où se trouve Madame de Tourvel. Elle est malade depuis hier. Sa maladie a pris si vivement et se montre avec des symptômes si graves que j'en suis vraiment alarmée. Une fièvre ardente, un transport violent et presque continuel, une soif qu'on ne peut apaiser, voilà tout ce qu'on remarque. Les médecins disent ne pouvoir rien pronostiquer encore, et le traitement sera d'autant plus difficile que la malade refuse avec obstination toute espèce de remède. C'est au point qu'il a fallu la tenir de force pour la saigner. Il a fallu depuis en user de même 2 autres fois pour lui remettre sa bande, que dans son transport elle veut toujours arracher. Vous qui l'avez vue comme moi, si peu forte, si timide et si douce, concevez-vous donc que 4 personnes puissent à peine la contenir, et que pour peu qu'on veuille lui représenter quelque chose, elle entre dans des fureurs inexprimables. Pour moi, je crains qu'il n'y ait plus que du délire, et que ce ne soit une vraie aliénation d'esprit. Ce qui augmente ma crainte à ce sujet, c'est ce qui s'est passé avant-hier. Ce jour-là, elle arriva vers les 11 heures du matin, avec sa femme de chambre, au couvent de... Comme elle a été élevée dans cette maison et qu'elle a conservé l'habitude d'y entrer quelquefois, elle y fut reçue comme à l'ordinaire, et elle parut à tout le monde tranquille et bien portante. Environ 2 heures après, elle s'informa si la chambre qu'elle occupait, étant pensionnaire, était vacante, et sur ce qu'on lui répondit que oui, elle demanda d'aller la revoir. La prieure l'y accompagna avec quelques autres religieuses. Ce fut alors qu'elle déclara qu'elle revenait s'établir dans cette chambre que, disait-elle, elle n'aurait jamais dû quitter, et qu'elle ajouta qu'elle n'en sortirait qu'à la mort. Ce fut son expression. D'abord, on ne sut que dire. Mais le premier étonnement passé, on lui représenta que sa qualité de femme mariée ne permettait pas de la recevoir sans une permission particulière. Cette raison, ni mille autres, n'y fit rien. Et dès ce moment, elle s'obstina non seulement à ne pas sortir du couvent, mais même de sa chambre. Enfin, de guerre lasse, à 7 heures du soir, on consentit qu'elle y passât la nuit. On renvoya sa voiture et ses gens, et on remit au lendemain à prendre un parti. On assure que pendant toute la soirée, loin que son air ou son maintien eussent rien d'égaré, l'un et l'autre étaient composés et réfléchis. Que seulement elle tomba 4 ou 5 fois dans une rêverie si profonde qu'on ne parvenait pas à l'en tirer en lui parlant. Et que chaque fois, avant d'en sortir, elle portait les 2 mains à son front qu'elle avait l'air de serrer avec force. Sur quoi une des religieuses qui était présente, lui ayant demandé si elle souffrait de la tête, elle la fixa longtemps avant de répondre, et lui dit enfin « Ce n'est pas là qu'est le mal ». Un moment après, elle demanda qu'on la laissât seule, et pria qu'à l'avenir on ne lui fît plus de questions. Tout le monde se retira, or sa femme de chambre, qui devait heureusement coucher dans la même chambre qu'elle, faute d'autre place. Suivant le rapport de cette fille, sa maîtresse a été assez tranquille jusqu'à 11 heures du soir. Elle a dit alors vouloir se coucher. Mais avant d'être entièrement déshabillée, elle se mit à marcher dans sa chambre avec beaucoup d'action et de gestes fréquents. Julie, qui avait été témoin de ce qui s'était passé dans la journée, n'osa rien lui dire et attendit en silence pendant près d'une heure. Enfin, Madame de Tourvel l'appela 2 fois coup sur coup. Elle n'eut que le temps d'accourir et sa maîtresse tomba dans ses bras en disant « Je n'en peux plus ». Elle se laissa conduire à son lit et ne voulut rien prendre, ni qu'on alla chercher aucun secours. Elle se fit mettre seulement de l'eau auprès d'elle et ordonna à Julie de se coucher. Celle-ci assura être restée jusqu'à 2 heures du matin sans dormir et n'avoir entendu pendant ce temps ni mouvement ni plainte. Mais elle dit avoir été réveillée à 5 heures par les discours de sa maîtresse qui parlait d'une voix forte et élevée. Et qu'alors, lui ayant demandé si elle n'avait besoin de rien et n'obtenant point de réponse, elle prit de la lumière et alla au lit de Madame de Tourvel, qui ne la reconnut point, mais qui, interrompant tout à coup les propos sans suite qu'elle tenait, s'écria vivement « Qu'on me laisse seule, qu'on me laisse dans les ténèbres, ce sont les ténèbres qui me conviennent !» J'ai remarqué hier par moi-même que cette phrase lui revient souvent. Enfin, Julie profita de cette espèce d'ordre pour sortir et aller chercher du monde et des secours. Mais Madame de Tourvel a refusé l'un et l'autre avec les fureurs et les transports qui sont revenus si souvent depuis. L'embarras où cela a mis tout le couvent a décidé la prieure à m'envoyer chercher hier à 7 heures du matin. Il ne faisait pas jour, je suis accourue sur le champ. Quand on m'a annoncé à Madame de Tourvel, elle a paru reprendre sa connaissance et a répondu « Ah oui, qu'elle entre !» Mais quand j'ai été près de son lit, elle m'a regardée fixement, a pris vivement ma main qu'elle a serrée et m'a dit d'une voix forte mais sombre « Je meurs pour ne pas vous avoir cru. » Aussitôt après, se cachant les yeux, elle est revenue à son discours le plus fréquent « Qu'on me laisse seule, etc. » Et toute connaissance s'est perdue. Ces propos qu'elle m'a tenus et quelques autres échappés dans son délire me font craindre que cette cruelle maladie n'ait une cause plus cruelle encore. Mais respectons les secrets de notre amie et contentons-nous de plaindre son malheur. Toute la journée d'hier a été également orageuse et partagée entre des accès de transports effrayants et des moments d'un abattement léthargique, les seuls où elle prend et donne quelque repos. Je n'ai quitté le chevet de son lit qu'à 9 heures du soir et je vais y retourner ce matin pour toute la journée. Sûrement, je n'abandonnerai pas ma malheureuse amie. Mais ce qui est désolant, c'est son obstination à refuser tous les soins et tous les secours. Je vous envoie le bulletin de cette nuit que je viens de recevoir et qui, comme vous le verrez, n'est rien moins que consolant. J'aurai soin de vous les faire passer tous exactement. Adieu, ma digne amie. Je vais retrouver ma malade. Ma fille, qui heureusement est presque rétablie, vous présente son respect. Paris, ce 29 novembre 1700. Lettre 148 Le chevalier Danceny à la marquise de Merteuil. Ô vous que j'aime, ô toi que j'adore, ô vous qui avez commencé mon bonheur, ô toi qui l'a comblé, amie sensible, tendre amante, pourquoi le souvenir de ta douleur vient-il troubler le charme que j'éprouve? Ah, madame, calmez-vous, c'est l'amitié qui vous le demande. Ô mon amie, sois heureuse, c'est la prière de l'amour. Et quel reproche avez-vous donc à vous faire? Croyez-moi, votre délicatesse vous abuse. Les regrets qu'elle vous cause, les torts dont elle m'accuse, sont également illusoires. Et je sens dans mon cœur qu'il n'y a eu, entre nous deux, d'autre séducteur que l'amour. Ne crains donc plus de te livrer aux sentiments que tu inspires, de te laisser pénétrer de tous les feux que tu fais naître. Quoi? Pour avoir été éclairés plus tard, nos cœurs en seraient-ils moins purs? Non, sans doute. C'est au contraire la séduction qui, n'agissant jamais que par projet, peut combiner sa marche et ses moyens et prévoir au loin les événements. Mais l'amour véritable ne permet pas ainsi de méditer et de réfléchir. Il nous distrait de nos pensées par nos sentiments. Son empire n'est jamais plus fort que quand il est inconnu. Et c'est dans l'ombre et le silence qu'il nous entoure de liens qu'il est également impossible d'apercevoir et de rompre. C'est ainsi qu'hier même, malgré la vive émotion que me causait l'idée de votre retour, malgré le plaisir extrême que je sentis en vous voyant, je croyais pourtant n'être encore appelé ni conduit que par la paisible amitié, ou plutôt, entièrement livré aux doux sentiments de mon cœur, je m'occupais bien peu d'en démêler l'origine ou la cause. Ainsi que moi, ma tendre amie, tu éprouvais sans le connaître ce charme impérieux qui livrait nos âmes aux douces impressions de la tendresse. Et tous deux, nous n'avons reconnu l'amour qu'en sortant de l'ivresse où ce Dieu nous avait plongés. Mais cela même nous justifie au lieu de nous condamner. Non, tu n'as pas trahi l'amitié, et je n'ai pas davantage abusé de ta confiance. Tous deux, il est vrai, nous ignorions nos sentiments, mais cette illusion, nous l'éprouvions seulement sans chercher à la faire naître. À loin de nous en plaindre, ne songeons qu'au bonheur qu'elle nous a procuré, et sans le troubler par d'injustes reproches, ne nous occupons qu'à l'augmenter encore par le charme de la confiance et de la sécurité. Ô mon ami, que cet espoir est cher à mon cœur. Oui, désormais délivré de toute crainte et tout entière à l'amour, tu partageras mes désirs, mes transports, le délire de mes sens, l'ivresse de mon âme. Et chaque instant de nos jours fortunés sera marqué par une volupté nouvelle. Adieu, toi que j'adore. Je te verrai ce soir, mais te trouverai-je seule? Je n'ose l'espérer. Ah, tu ne le désires pas autant que moi. Paris, ce 1er décembre 1700. Lettre 149, Madame de Volanges à Madame de Rosemonde. J'ai espéré hier, presque toute la journée, ma digne amie, pouvoir vous donner ce matin des nouvelles plus favorables de la santé de notre cher malade. Mais depuis hier au soir, cet espoir est détruit, et il ne me reste que le regret de l'avoir perdu. Un événement bien indifférent en apparence, mais bien cruel par les suites qu'il a eues, a rendu l'état de la malade au moins aussi fâcheux qu'il était auparavant, si même il ne l'a pas empiré. Je n'aurais rien compris à cette révolution subite si je n'avais reçu hier l'entière confidence de notre malheureuse amie. Comme elle ne m'a pas laissé ignorer que vous étiez instruite aussi de toutes ses infortunes, je puis vous parler sans réserve sur sa triste situation. Hier matin, quand je suis arrivée au couvent, on me dit que la malade dormait depuis plus de 3 heures, et son sommeil était si profond et si tranquille que j'eus peur un moment qu'il ne fût léthargique. Quelque temps après, elle se réveilla et ouvrit elle-même les rideaux de son lit. Elle nous regarda tous avec l'air de la surprise, et comme je me levais pour aller à elle, elle me reconnut, me nomma et me pria d'approcher. Elle ne me laissa le temps de lui faire aucune question, et me demanda où elle était, ce que nous faisions là, si elle était malade, et pourquoi elle n'était pas chez elle. Je crus d'abord que c'était un nouveau délire, seulement plus tranquille que le précédent, mais je m'aperçus qu'elle entendait fort bien mes réponses. Elle avait en effet retrouvé sa tête, mais non pas sa mémoire. Elle me questionna avec beaucoup de détails sur tout ce qui lui était arrivé depuis qu'elle était au couvent, où elle ne se souvenait pas d'être venue. Je lui répondis exactement, en supprimant seulement ce qui aurait pu la trop effrayer. Et lorsqu'à mon tour je lui demandai comment elle se trouvait, elle me répondit qu'elle ne souffrait pas dans ce moment, mais qu'elle avait été bien tourmentée pendant son sommeil, et qu'elle se sentait fatiguée. Je l'engageai à se tranquilliser et à parler peu. Après quoi, je refermai en partie ses rideaux que je laissai entr'ouverts, et je m'assis auprès de son lit. Dans le même temps, on lui proposa un bouillon qu'elle prit et qu'elle trouva bon. Elle resta ainsi environ une demi-heure, durant laquelle elle ne parla que pour me remercier des soins que je lui avais donnés. Et elle mit dans ses remerciements l'agrément et la grâce que vous lui connaissez. Ensuite, elle garda pendant quelque temps un silence absolu qu'elle ne rompit que pour dire « Ah oui, je me ressouviens d'être venue ici. » Et un moment après, elle s'écria douloureusement « mon ami, plaignez-moi, je retrouve tous mes malheurs. » Comme alors je m'avançais vers elle, elle saisit ma main et s'y appuyant la tête. « Grand Dieu, continua-t-elle, ne puis-je donc mourir ?» Son expression, plus encore que son discours, m'attendrit jusqu'aux larmes. Elle s'en aperçut à ma voix et me dit « Vous me plaignez. Ah, si vous connaissiez !» Et puis s'interrompant « Faites qu'on nous laisse seuls, et je vous dirai tout. » Ainsi que je crois vous l'avoir marqué, j'avais déjà des soupçons sur ce qui devait faire le sujet de cette confidence. Et craignant que cette conversation, que je prévoyais devoir être longue et triste, ne nuisît peut-être à l'état de notre malheureuse amie, je m'y refusai d'abord, sous prétexte qu'elle avait besoin de repos. Mais elle insista, et je me rendis à ses instances. Dès que nous fûmes seuls, elle m'apprit tout ce que déjà vous avez su d'elle, et que par cette raison je ne vous répéterai point. Enfin, en me parlant de la façon cruelle dont elle avait été sacrifiée, elle ajouta « Je me croyais bien sûr d'en mourir, et j'en avais le courage, mais de survivre à mon malheur et à ma honte, c'est ce qui m'est impossible. » Je tentai de combattre ce découragement, ou plutôt ce désespoir, avec les armes de la religion, jusqu'alors si puissantes sur elle. Mais je sentis bientôt que je n'avais pas assez de force pour ses fonctions augustes, et je m'en tins à lui proposer d'appeler le père Anselme, que je sais avoir toute sa confiance. Elle y consentit, et parut même le désirer beaucoup. On l'envoya chercher en effet, et il vint sur le champ. Il resta fort longtemps avec la malade, et dit en sortant que si les médecins en jugeaient comme lui, il croyait qu'on pouvait différer la cérémonie des sacrements, qu'il reviendrait le lendemain. Il était environ 3 heures après-midi, et jusqu'à 5, notre ami fut assez tranquille, en sorte que nous avions tous repris de l'espoir. Par malheur, on apporta alors une lettre pour elle. Quand on voulut la lui remettre, elle répondit d'abord n'en vouloir recevoir aucune, et personne n'insista. Mais de ce moment, elle parut plus agitée. Bientôt après, elle demanda d'où venait cette lettre. Elle n'était pas timbrée. Qui l'avait apportée? On l'ignorait. De quelle part on l'avait remise? On ne l'avait pas dit aux tourières. Ensuite, elle garda quelque temps le silence. Après quoi elle recommença à parler, mais ses propos, sans suite, nous apprirent seulement que le délire était revenu. Cependant, il y eut encore un intervalle tranquille, jusqu'à ce qu'enfin, elle demanda qu'on lui remît la lettre qu'on avait apportée pour elle. Dès qu'elle eut jeté les yeux dessus, elle s'écria « De lui, grand Dieu !» Et puis, d'une voix forte mais oppressée « Reprenez-la, reprenez-la !» Elle fit sur-le-champ fermer les rideaux de son lit, et défendit que personne approcha. Mais presque aussitôt, nous fûmes bien obligés de revenir auprès d'elle. Le transport avait repris plus violent que jamais, et il s'y était joint des convulsions vraiment effrayantes. Ces accidents n'ont plus cessé de la soirée, et le bulletin de ce matin m'apprend que la nuit n'a pas été moins orageuse. Enfin, son état est tel que je m'étonne qu'elle n'y ait pas déjà succombé, et je ne vous cache point qu'il ne me reste que bien peu d'espoir. Je suppose que cette malheureuse lettre est de Monsieur de Valmont, mais que peut-il encore oser lui dire? Pardon, ma chère amie, je m'interdis toute réflexion, mais il est bien cruel de voir périr si malheureusement une femme jusqu'alors si heureuse et si digne de l'être. Paris, ce 2 décembre 1700. Lettre 150, le chevalier Danceny à la marquise de Merteuil. En attendant le bonheur de te voir, je me livre, ma tendre amie, au plaisir de t'écrire. Et c'est en m'occupant de toi que je charme le regret d'en être éloigné. Te tracer mes sentiments, me rappeler les tiens, est pour mon cœur une vraie jouissance. Et c'est par elle que le temps même des privations m'offre encore 1000 biens précieux à mon amour. Cependant, s'il faut en croire, je n'obtiendrai point de réponse de toi. Cette lettre même sera la dernière, et nous nous priverons d'un commerce qui, selon toi, est dangereux et dont nous n'avons pas besoin. Sûrement je t'en croirai si tu persistes, car que peux-tu vouloir que pour cette même raison je ne le veuille aussi? Mais avant de te décider entièrement, ne permettras-tu pas que nous en causions ensemble? Sur l'article des dangers, tu dois juger seul. Je ne puis rien calculer, et je m'en tiens à te prier de veiller à ta sûreté, car je ne puis être tranquille quand tu seras inquiète. Pour cet objet, ce n'est pas nous deux qui ne sommes qu'un, c'est toi qui es nous deux. Il n'en est pas de même sur le besoin. Ici, nous ne pouvons avoir qu'une même pensée, et si nous différons d'avis, ce ne peut être que faute de nous expliquer ou de nous entendre. Voici donc ce que je crois sentir. Sans doute, une lettre paraît bien peu nécessaire quand on peut se voir librement. Que dirait-elle qu'un mot, un regard, ou même le silence, n'exprimasse 100 fois mieux encore? Cela me paraît si vrai que dans le moment où tu me parlas de ne plus nous écrire, cette idée glissa facilement sur mon âme. Elle la gêna peut-être, mais ne l'affecta point. Tel à peu près, quand voulant donner un baiser sur ton cœur, je rencontre un ruban ou une gaze, je l'écarte seulement, et n'ai pas cependant le sentiment d'un obstacle. Mais depuis, nous nous sommes séparés, et dès que tu n'as plus été là, cette idée de l'être est revenue me tourmenter. Pourquoi, me suis-je dit, cette privation de plus? Quoi? Pour être éloigné, n'a-t-on plus rien à se dire? Je suppose que, favorisé par les circonstances, on passe ensemble une journée entière. Faudra-t-il prendre le temps de causer sur celui de jouir? Oui, de jouir, ma tendre amie, car auprès de toi, les moments même du repos fournissent encore une jouissance délicieuse. Enfin, quel que soit le temps, on finit par se séparer, et puis on est si seul. C'est alors qu'une lettre est si précieuse. Si on ne la lit pas, du moins on la regarde. Ah, sans doute, on ne peut regarder une lettre sans la lire. Comme il me semble que la nuit, j'aurais encore quelque plaisir à toucher ton portrait. Ton portrait, ai-je dit, mais une lettre est le portrait de l'âme. Elle n'a pas, comme une froide image, cette stagnance si éloignée de l'amour. Elle se prête à tous nos mouvements. Tour à tour, elle s'anime, elle jouit, elle se repose. Tes sentiments me sont tous si précieux. Me priveras-tu d'un moyen de les recueillir? Es-tu donc sûr que le besoin de m'écrire ne te tourmentera jamais? Si dans la solitude, ton cœur se dilate ou s'oppresse, si un mouvement de joie passe jusqu'à ton âme, si une tristesse involontaire vient la troubler un moment, ce ne sera donc pas dans le sein de ton ami que tu répandras ton bonheur ou ta peine. Tu auras donc un sentiment qu'il ne partagera pas. Tu le laisseras donc, rêveur et solitaire, s'égarer loin de toi, mon ami. Ma tendre amie, mais c'est à toi qu'il appartient de prononcer. J'ai voulu discuter seulement et non pas te séduire. Je ne t'ai dit que des raisons. J'ose croire que j'eusse été plus fort par des prières. Je tâcherai donc, si tu persistes, de ne pas m'affliger. Je ferai mes efforts pour me dire ce que tu m'aurais écrit. Mais tiens, tu le dirais mieux que moi, et j'aurai surtout plus de plaisir à l'entendre. Adieu, ma charmante amie. L'heure approche enfin où je pourrai te voir. Je te quitte bien vite pour t'aller retrouver plus tôt. Paris, ce 3 décembre 1700. Lettre 151, le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Sans doute, marquise, que vous ne me croyez pas assez peu d'usage pour penser que j'ai pu prendre le change sur le tête-à-tête où je vous ai trouvé ce soir, et sur l'étonnant hasard qui avait conduit Danceny chez vous. Ce n'est pas que votre physionomie exercée n'ait su prendre à merveille l'expression du calme et de la sérénité, ni que vous vous soyez trahi par aucune de ces phrases qui quelquefois échappent au trouble ou au repentir. Je conviens même encore que vos regards dociles vous ont parfaitement servi, et que s'ils avaient su se faire croire aussi bien que se faire entendre, loin que j'eusse pris ou conservé le moindre soupçon, je n'aurais pas douté un moment du chagrin extrême que vous causez ce tiers importun. Mais pour ne pas déployer en vain d'aussi grands talents, pour en obtenir le succès que vous vous en promettiez, pour produire enfin l'illusion que vous cherchiez à faire naître, il fallait donc auparavant former votre amant novice avec plus de soin. Puisque vous commencez à faire des éducations, apprenez à vos élèves à ne pas rougir et se déconcerter à la moindre plaisanterie, à ne pas nier si vivement pour une seule femme les mêmes choses dont ils se défendent avec tant de mollesse pour toutes les autres. Apprenez-leur encore à savoir entendre l'éloge de leur maîtresse sans se croire obligé d'en faire les honneurs. Et si vous leur permettez de vous regarder dans le cercle, qu'ils sachent au moins auparavant déguiser ce regard de possession si facile à reconnaître et qu'ils confondent si maladroitement avec celui de l'amour. Alors, vous pourrez les faire paraître dans vos exercices publics sans que leur conduite fasse tort à leur sage institutrice. Et moi-même, trop heureux de concourir à votre célébrité, je vous promets de faire et de publier les programmes de ce nouveau collège. Mais jusque-là, je m'étonne, je l'avoue, que ce soit moi que vous ayez entrepris de traiter comme un écolier. Oh, qu'avec toute autre femme je serai bientôt vengée, que je m'en ferai de plaisir, et qu'il surpasserait aisément celui qu'elle aurait cru me faire perdre. Oui, c'est bien pour vous seul que je peux préférer la réparation à la vengeance. Et ne croyez pas que je sois retenu par le moindre doute, par la moindre incertitude. Je sais tout. Vous êtes à Paris depuis 4 jours, et chaque jour vous avez vu Danceny, et vous n'avez vu que lui seul. Aujourd'hui même, votre porte était encore fermée, et il n'a manqué à votre Suisse, pour m'empêcher d'arriver jusqu'à vous, qu'une assurance égale à la vôtre. Cependant, je ne devais pas douter, me mandiez-vous, d'être le premier informé de votre arrivée. De cette arrivée dont vous ne pouviez pas encore me dire le jour, tandis que vous m'écriviez la veille de votre départ. Nierez-vous ces faits, ou tenterez-vous de vous en excuser? L'un et l'autre sont également impossibles. Et pourtant je me contiens encore. Reconnaissez là votre empire. Mais croyez-moi, contente de l'avoir éprouvé, n'en abusez pas plus longtemps. Nous nous connaissons tous deux, marquise. Ce mot doit vous suffire. Vous sortez demain toute la journée, m'avez-vous dit. À la bonne heure, si vous sortez en effet. Et vous jugez que je le saurai. Mais enfin, vous rentrerez le soir. Et pour notre difficile réconciliation, nous n'aurons pas trop de temps jusqu'au lendemain. Faites-moi donc savoir si ce sera chez vous, ou là-bas, que se feront nos expiations nombreuses et réciproques. Surtout plus de Danceny. Votre mauvaise tête s'était remplie de son idée. Et je ne peux n'être pas jaloux de ce délire de votre imagination. Mais songez que de ce moment, ce qui n'était qu'une fantaisie deviendrait une préférence marquée. Je ne me crois pas fait pour cette humiliation, et je ne m'attends pas à la recevoir de vous. J'espère même que ce sacrifice ne vous en paraîtra pas un. Mais quand il vous en coûterait quelque chose, il me semble que je vous ai donné un assez bel exemple, qu'une femme sensible et belle, qui n'existait que pour moi, qui dans ce moment même meurt peut-être d'amour et de regret, peut bien valoir un jeune écolier, qui, si vous voulez, ne manque ni de figure ni d'esprit, mais qui n'a encore ni usage ni consistance. Adieu, marquise. Je ne vous dis rien de mes sentiments pour vous. Tout ce que je puis faire en ce moment, c'est de ne pas scruter mon cœur. J'attends votre réponse. Songez en la faisant. Songez bien que plus il vous est facile de me faire oublier l'offense que vous m'avez faite, plus un refus de votre part, un simple délai, la graverait dans mon cœur en traits ineffaçables. Paris, ce 3 décembre 1700, au soir. Lettre 152, la marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Prenez donc garde, vicomte, et ménagez davantage mon extrême timidité. Comment voulez-vous que je supporte l'idée accablante d'encourir votre indignation et surtout que je ne succombe pas à la crainte de votre vengeance. D'autant que, comme vous savez, si vous me faisiez une noirceur, il me serait impossible de vous la rendre. J'aurais beau parler, votre existence n'en serait ni moins brillante, ni moins plaisible. Au fait, qu'auriez-vous à redouter? D'être obligé de partir, si on vous en laissait le temps? Mais ne vit-on pas chez l'étranger comme ici? Et à tout prendre, pourvu que la cour de France vous laissât tranquille à celle où vous vous fixeriez, ce ne serait pour vous que changer le lieu de vos triomphes. Après avoir tenté de vous rendre votre sang-froid par ces considérations morales, revenons à nos affaires. Savez-vous, vicomte, pourquoi je ne me suis jamais remariée? Ce n'est assurément pas faute d'avoir trouvé assez de partis avantageux. C'est uniquement pour que personne n'ait le droit de trouver à redire à mes actions. Ce n'est même pas que j'ai craint de ne plus pouvoir faire mes volontés, car j'aurais bien toujours fini par là. Mais c'est qu'il m'aurait gêné que quelqu'un ait eu seulement le droit de s'en plaindre. C'est qu'enfin, je ne voulais tromper que pour mon plaisir, et non par nécessité. Et voilà que vous m'écrivez la lettre la plus maritale qu'il soit possible de voir. Vous ne m'y parlez que de tort de mon côté et de grâce du vôtre. Mais comment donc peut-on manquer à celui à qui on ne doit rien? Je ne saurais le concevoir. Voyons, de quoi s'agit-il tant? Vous avez trouvé Danceny chez moi et cela vous a déplu. À la bonne heure. Mais qu'avez-vous pu en conclure? Ou que c'était l'effet du hasard, comme je vous le disais, ou celui de ma volonté, comme je vous ne le disais pas? Dans le premier cas, votre lettre est injuste. Dans le second, elle est ridicule. C'était bien la peine d'écrire. Mais vous êtes jaloux, et la jalousie ne raisonne pas. Eh bien, je vais raisonner pour vous. Oui, ou vous avez un rival, ou vous n'en avez pas. Si vous en avez un, il faut plaire pour lui être préféré. Si vous n'en avez pas, il faut encore plaire pour éviter d'en avoir. Dans tous les cas, c'est la même conduite à tenir. Alors pourquoi vous tourmenter? Pourquoi, surtout, me tourmenter moi-même? Ne savez-vous donc pas être le plus aimable? Et n'êtes-vous plus sûr de vos succès? Allons donc, vicomte, vous vous faites tort. Mais ce n'est pas cela, c'est qu'à vos yeux, je ne vaux pas que vous vous donniez tant de peine. Vous désirez moins mes bontés que vous ne voulez abuser de votre empire. Allez, vous êtes un ingrat. Voilà bien, je crois, du sentiment. Et pour peu que je continuasse, cette lettre pourrait devenir fort tendre. Mais vous ne le méritez pas. Vous ne méritez pas davantage que je me justifie. Pour vous punir de vos soupçons, vous les garderez. Ainsi, sur l'époque de mon retour, comme sur les visites de Danceny, je ne vous dirai rien. Vous vous êtes donné bien de la peine pour vous en instruire, n'est-il pas vrai? Eh bien, en êtes-vous plus avancé? Je souhaite que vous y ayez trouvé beaucoup de plaisir. Quant à moi, cela n'a pas nui au mien. Tout ce que je peux donc répondre à votre menaçante lettre, c'est qu'elle n'a eu ni le don de me plaire, ni le pouvoir de m'intimider, et que pour le moment, je suis on ne peut pas moins disposé à vous accorder vos demandes. Au vrai, vous accepter tel que vous vous montrez aujourd'hui, ce serait vous faire une infidélité réelle. Ce ne serait pas là renouer avec mon ancien amant. Ce serait en prendre un nouveau, et qui ne vaut pas l'autre à beaucoup près. Je n'ai pas assez oublié le premier pour m'y tromper ainsi. Le Valmont que j'aimais était charmant. Je veux bien convenir même que je n'ai pas rencontré d'homme plus aimable. Ah, je vous en prie, vicomte, si vous le retrouvez, amenez-le-moi. Celui-là sera toujours bien reçu. Prévenez-le cependant que dans aucun cas, ce ne serait ni pour aujourd'hui ni pour demain. Son ménèche lui a fait un peu tort. Et en me pressant trop, je craindrais de m'y tromper. Ou bien peut-être ai-je donné parole à Danceny pour ces deux jours-là, et votre lettre m'a appris que vous ne plaisantiez pas quand on manquait à sa parole. Vous voyez donc qu'il faut attendre. Mais que vous importe, vous vous vengerez toujours bien de votre rival. Il ne fera pas pis à votre maîtresse que vous ferez à la sienne. Et après tout, une femme n'en vaut-elle pas une autre? Ce sont vos principes. Celle-même qui serait tendre et sensible, qui n'existerait que pour vous, et qui mourrait enfin d'amour et de regret, n'en serait pas moins sacrifiée à la première fantaisie, à la crainte d'être plaisanté un moment. Et vous voulez qu'on se gêne? Ah, cela n'est pas juste. Adieu, vicomte, redevenez donc aimable. Tenez, je ne demande pas mieux que de vous trouver charmant. Et dès que j'en serai sûre, je m'engage à vous le prouver. En vérité, je suis trop bonne. Paris, ce 4 décembre 1700. Lettre 153, le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Je réponds sur le champ à votre lettre, et je tâcherai d'être clair, ce qui n'est pas facile avec vous, quand une fois vous avez pris le parti de ne pas entendre. De longs discours n'étaient pas nécessaires pour établir que chacun de nous, ayant en main tout ce qu'il faut pour perdre l'autre, nous avons un égal intérêt à nous ménager mutuellement. Aussi, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Mais entre le parti violent de se perdre, et celui sans doute meilleur, de rester unis comme nous l'avons été, de le devenir davantage encore en reprenant notre première liaison, entre ces deux parties, dis-je, il y en a mille autres à prendre. Il n'était donc pas ridicule de vous dire, et il ne l'est pas de vous répéter, que de ce jour même, je serai ou votre amant ou votre ennemi. Je sens à merveille que ce choix vous gêne, qu'il vous conviendrait mieux de tergiverser, et je n'ignore pas que vous n'avez jamais aimé à être placé ainsi, entre le oui et le non. Mais vous devez sentir aussi que je ne puis vous laisser sortir de ce cercle étroit sans risquer d'être joué, et vous avez dû prévoir que je ne le souffrirai pas. C'est maintenant à vous à décider. Je peux vous laisser le choix, mais non pas rester dans l'incertitude. Je vous préviens seulement que vous n'abuserez pas par vos raisonnements, bons ou mauvais, que vous ne me séduirez pas davantage par quelques cajoleries dont vous chercheriez à parer vos refus, et qu'enfin le moment de la franchise est arrivé. Je ne demande pas mieux que de vous donner l'exemple, et je vous déclare avec plaisir que je préfère la paix et l'union. Mais s'il faut rompre l'un et l'autre, je crois en avoir le droit et les moyens. J'ajoute donc que le moindre obstacle mis de votre part sera pris de la mienne pour une véritable déclaration de guerre. Voyez que la réponse que je vous demande n'exige ni longue ni belle phrase. Deux mots suffisent. Paris, ce 4 décembre 1700. Réponse de la marquise de Merteuil, écrite au bas de la même lettre. Eh bien, la guerre. Lettre 154, Madame de Volanges à Madame de Rosemonde. Les bulletins vous instruisent mieux que je ne pourrais le faire, ma chère amie, du fâcheux état de notre malade. Tout entière aux soins que je lui donne, je ne prends sur eux le temps de vous écrire qu'autant qu'il y a d'autres événements que ceux de la maladie. En voici un, auquel certainement je ne m'attendais pas. C'est une lettre que j'ai reçue de M. de Valmont, à qui il a plu de me choisir pour sa confidente et même pour sa médiatrice auprès de Mme de Tourvel, pour qui il avait aussi joint une lettre à la mienne. J'ai renvoyé l'une en répondant à l'autre. Je vous fais passer cette dernière, et je crois que vous jugerez, comme moi, que je ne pouvais ni ne devais rien faire de ce qu'il me demande. Quand je l'aurais voulu, notre malheureuse amie n'aurait pas été en état de m'entendre. Son délire est continuel. Mais que direz-vous de ce désespoir de M. de Valmont? D'abord, faut-il y croire? Ou veut-il seulement tromper tout le monde et jusqu'à la fin? Si pour cette fois il est sincère, il peut bien dire qu'il a lui-même fait son malheur. Je crois qu'il sera peu content de ma réponse, mais j'avoue que tout ce qui me fixe sur cette malheureuse aventure me soulève de plus en plus contre son auteur. Adieu, ma chère amie. Je retourne à mes tristes soins, qui le deviennent bien davantage encore par le peu d'espoir que j'ai de les voir réussir. Vous connaissez mes sentiments pour vous. Paris, ce 5 décembre 1700. Lettre 155. Le vicomte de Valmont au chevalier Danceny. J'ai passé deux fois chez vous, mon cher chevalier, mais depuis que vous avez quitté le rôle d'amant pour celui d'homme à bonne fortune, vous êtes, comme de raison, devenu introuvable. Votre valet de chambre m'a assuré cependant que vous rentreriez chez vous ce soir, qu'il avait ordre de vous attendre. Mais moi, qui suis instruit de vos projets, j'ai très bien compris que vous ne rentreriez que pour un moment, pour prendre le costume de la chose, et que sur le champ, vous recommenceriez vos courses victorieuses. À la bonne heure, et je ne puis qu'y applaudir. Mais peut-être pour ce soir allez-vous être tenté de changer leur direction. Vous ne savez encore que la moitié de vos affaires. Il faut vous mettre au courant de l'autre, et puis vous vous déciderez. Prenez donc le temps de lire ma lettre. Ce ne sera pas vous distraire de vos plaisirs, puisqu'au contraire, elle n'a d'autre objet que de vous donner le choix entre eux. Si j'avais eu votre confiance entière, si j'avais su par vous la partie de vos secrets que vous m'avez laissé à deviner, j'aurais été instruit à temps, et mon zèle moins gauche ne gênerait pas aujourd'hui votre marche. Mais partons du point où nous sommes. Quelque parti que vous preniez, votre pis-aller ferait toujours bien le bonheur d'un autre. Vous avez un rendez-vous pour cette nuit, n'est-il pas vrai? Avec une femme charmante et que vous adorez. Car à votre âge, quelle femme n'adore-t-on pas au moins les 8 premiers jours? Le lieu de la scène doit encore ajouter à vos plaisirs. Une petite maison délicieuse, et qu'on n'a prise que pour vous, doit embellir la volupté des charmes de la liberté et de ceux du mystère. Tout est convenu, on vous attend, et vous brûlez de vous y rendre. Voilà ce que nous savons tous deux, quoique vous ne m'en ayez rien dit. Maintenant, voici ce que vous ne savez pas et qu'il faut que je vous dise. Depuis mon retour à Paris, je m'occupais des moyens de vous rapprocher de Mademoiselle de Volanges. Je vous l'avais promis, et encore la dernière fois que je vous en parlais, j'eus lieu de juger par vos réponses, je pourrais dire par vos transports, que c'était m'occuper de votre bonheur. Je ne pouvais pas réussir à moi seul dans cette entreprise assez difficile, mais après avoir préparé les moyens, j'ai remis le reste aux ailes de votre jeune maîtresse. Elle a trouvé dans son amour des ressources qui avaient manqué à mon expérience. Enfin, votre malheur veut qu'elle ait réussi. Depuis 2 jours, m'a-t-elle dit ce soir, tous les obstacles sont surmontés et votre bonheur ne dépend plus que de vous. Depuis 2 jours aussi, elle se flattait de vous apprendre cette nouvelle elle-même, et malgré l'absence de sa maman, vous auriez été reçu. Mais vous ne vous êtes pas seulement présenté. Et pour vous dire tout, soit caprice ou raison, la petite personne m'a paru un peu fâchée de ce manque d'empressement de votre part. Enfin, elle a trouvé le moyen de me faire aussi parvenir jusqu'à elle et m'a fait promettre de vous rendre le plus tôt possible la lettre que je joins ici. À l'empressement qu'elle y a remis, je parierais bien qu'il est question d'un rendez-vous pour ce soir. Quoi qu'il en soit, j'ai promis sur l'honneur et sur l'amitié que vous auriez la tendre missive dans la journée, et je ne puis ni ne veux manquer à ma parole. À présent, jeune homme, quelle conduite allez-vous tenir ? Placé entre la coquetterie et l'amour, entre le plaisir et le bonheur, quel va être votre choix? Si je parlais au Danceny d'il y a 3 mois, seulement à celui d'il y a 8 jours, bien sûr de son cœur, je le serais de ses démarches. Mais le Danceny d'aujourd'hui, arraché par les femmes, courant les aventures, est devenu, suivant l'usage, un peu scélérat. Préférera-t-il une jeune fille timide qui n'a pour elle que sa beauté, son innocence et son amour, aux agréments d'une femme parfaitement usagée? Pour moi, mon cher ami, il me semble que même dans vos nouveaux principes, que j'avoue bien être aussi un peu les miens, les circonstances me décideraient pour la jeune amante. D'abord, c'en est une de plus. Et puis la nouveauté, et encore la crainte de perdre le fruit de vos soins en négligeant de le cueillir. Car enfin, de ce côté, ce serait véritablement l'occasion manquée, et elle ne revient pas toujours, surtout pour une première faiblesse. Surtout dans ce cas, il ne faut qu'un moment d'humeur, un soupçon jaloux, moins encore, pour empêcher le plus beau triomphe. La vertu qui se noie se raccroche quelquefois aux branches, et une fois réchappée, elle se tient sur ses gardes et n'est plus facile à surprendre. Au contraire, de l'autre côté, que risquez-vous? Pas même une rupture, une brouillerie tout au plus, où l'on achète de quelques soins le plaisir d'un raccommodement. Quelle autre partie reste-t-il à une femme déjà rendue que celui de l'indulgence? Que gagnerait-elle à la sévérité? La perte de ses plaisirs, sans profit pour sa gloire. Si, comme je le suppose, vous prenez le parti de l'amour, qui me paraît aussi celui de la raison, je crois qu'il est de la prudence de ne point vous faire excuser au rendez-vous manqué. Laissez-vous attendre, tout simplement. Si vous risquez de donner une raison, on sera peut-être tenté de la vérifier. Les femmes sont curieuses et obstinées, tout peut se découvrir. Je viens, comme vous savez, d'en être moi-même un exemple. Mais si vous laissez l'espoir, comme il sera soutenu par la vanité, il ne sera perdu que longtemps après leurs propres informations. Alors demain, vous aurez à choisir l'obstacle insurmontable qui vous aura retenu. Vous aurez été malade, mort s'il le faut, ou toute autre chose dont vous serez également désespéré, et tout se raccommodera. Au reste, pour quelque côté que vous vous décidiez, je vous prie seulement de m'en instruire. Et comme je n'y ai pas d'intérêt, je trouverai toujours que vous avez bien fait. Adieu, mon cher ami. Ce que j'ajoute encore, c'est que je regrette Madame de Tourvel. C'est que je suis au désespoir d'être séparée d'elle. C'est que je paierai de la moitié de ma vie le bonheur de lui consacrer l'autre. Ah, croyez-moi, on n'est heureux que par l'amour. Paris, ce 5 décembre 1700. Lettre 156, Cécile Volange au chevalier Danceny, jointe à la précédente. Comment se fait-il, mon cher ami, que je cesse de vous voir quand je ne cesse pas de le désirer? N'en avez-vous plus autant d'envie que moi? Ah, c'est bien à présent que je suis triste, plus triste que quand nous étions séparés tout à fait. Le chagrin que j'éprouvais par les autres, c'est à présent de vous qu'il me vient, et cela fait bien plus de mal. Depuis quelques jours, maman n'est jamais chez elle, vous le savez bien, et j'espérais que vous essayeriez de profiter de ce temps de liberté. Mais vous ne songez seulement pas à moi. Je suis bien malheureuse. Vous me disiez tant que c'était moi qui aimais le moins. Je savais bien le contraire, et en voilà bien la preuve. Si vous étiez venu pour me voir, vous m'auriez vu, en effet, car moi, je ne suis pas comme vous. Je ne songe qu'à ce qui peut nous réunir. Vous mériterez bien que je ne vous dise rien de tout ce que j'ai fait pour ça, et qui m'a donné tant de peine. Mais je vous aime trop, et j'ai tant envie de vous voir que je ne peux m'empêcher de vous le dire. Et puis je verrai bien après si vous m'aimez réellement. J'ai si bien fait que le portier est dans nos intérêts, et qu'il m'a promis que toutes les fois que vous viendriez, il vous laisserait toujours entrer, comme s'il ne vous voyait pas. Et nous pouvons bien vous fier à lui, car c'est un bien honnête homme. Il ne s'agit donc plus que d'empêcher qu'on ne vous voie dans la maison. Et ça, c'est bien aisé en n'y venant que le soir, et quand il n'y aura plus rien à craindre du tout. Par exemple, depuis que maman sort tous les jours, elle se couche tous les jours à 11 heures. Ainsi, nous aurions bien du temps. Le portier m'a dit que quand vous voudriez venir comme ça, au lieu de frapper à la porte, vous n'auriez qu'à frapper à sa fenêtre, et qu'il ouvrirait tout de suite. Et puis vous trouverez bien le petit escalier, et comme vous ne pourrez pas avoir de lumière, je laisserai la porte de ma chambre entrouverte, ce qui vous éclairera toujours un peu. Vous prendrez bien garde de ne pas faire de bruit, surtout en passant auprès de la petite porte de maman. Pour celle de ma femme de chambre, c'est égal, parce qu'elle m'a promis qu'elle ne se réveillerait pas. C'est aussi une bien bonne fille. Et pour vous en aller, ce sera tout de même. À présent, nous verrons si vous viendrez. Mon Dieu, pourquoi donc le cœur me bat-il si fort en vous écrivant? Est-ce qu'il doit m'arriver quelque malheur? Ou si c'est l'espérance de vous voir qui me trouble comme ça? Ce que je sens bien, c'est que je ne vous ai jamais tant aimé, et que jamais je n'ai tant désiré de vous le dire. Venez donc, mon ami, mon cher ami, que je puisse vous répéter 100 fois que je vous aime, que je vous adore, que je n'aimerai jamais que vous. J'ai trouvé moyen de faire dire à Monsieur de Valmont que j'avais quelque chose à lui dire. Et lui, comme il est bien bon ami, il viendra sûrement demain, et je le prierai de vous remettre ma lettre tout de suite. Ainsi je vous attendrai demain au soir, et vous viendrez sans faute, si vous ne voulez pas que votre Cécile soit bien malheureuse. Adieu, mon cher ami, je vous embrasse de tout mon cœur. Paris, ce 4 décembre 1700, au soir. Lettre 157, le chevalier Danceny au vicomte de Valmont. Ne doutez, mon cher vicomte, ni de mon cœur, ni de mes démarches. Comment résisterais-je à un désir de ma Cécile? Ah, c'est bien elle, elle seule que j'aime, que j'aimerai toujours. Son ingénuité, sa tendresse ont un charme pour moi, dont j'ai pu avoir la faiblesse de me laisser distraire, mais que rien n'effacera jamais. Engagée dans une autre aventure, pour ainsi dire, sans m'en être aperçue, Souvent le souvenir de Cécile est venu me troubler jusque dans les plus doux plaisirs. Et peut-être mon cœur ne lui a-t-il jamais rendu d'hommage plus vrai que dans le moment même où je lui étais infidèle. Cependant, mon ami, ménageons sa délicatesse et cachons-lui mes torts, non pour la surprendre, mais pour ne pas l'affliger. Le bonheur de Cécile est le vœu le plus ardent que je forme. Jamais je ne me pardonnerai une faute qui lui aurait coûté une larme. Je méritais, je le sens, la plaisanterie que vous me faites sur ce que vous appelez mes nouveaux principes. Mais vous pouvez m'en croire, ce n'est point par eux que je me conduis dans ce moment. Et dès demain, je suis décidée à le prouver. J'irai m'accuser à celle même qui a causé mon égarement et qui l'a partagé. Je lui dirai, lisez dans mon cœur. Il a pour vous l'amitié la plus tendre. L'amitié unie au désir ressemble tant à l'amour. Tous deux, nous nous sommes trompés. Mais susceptible d'erreur, je ne suis point capable de mauvaise foi. Je connais mon amie. Elle est honnête autant qu'indulgente. Elle fera plus que me pardonner. Elle m'approuvera. Elle-même se reprochait souvent d'avoir trahi l'amitié. Souvent sa délicatesse effrayait son amour. Plus sage que moi, elle fortifiera dans mon âme ses craintes utiles que je cherchais témérairement à étouffer dans la sienne. Je lui devrais d'être meilleure, comme à vous d'être plus heureux. Oh, mes amis, partagez ma reconnaissance. L'idée de vous devoir mon bonheur en augmente le prix. Adieu, mon cher vicomte. L'excès de ma joie ne m'empêche point de songer à vos peines et d'y prendre part. Que ne puis-je vous être utile? Madame de Tourvel reste donc inexorable. On l'a dit aussi bien malade. Mon Dieu, que je vous plains. Puisse-t-elle reprendre à la fois de la santé et de l'indulgence et faire à jamais votre bonheur? Ce sont les vœux de l'amitié. J'ose espérer qu'ils seront exaucés par l'amour. Je voudrais causer plus longtemps avec vous, mais l'heure me presse, et peut-être Cécile m'attend déjà. Paris, ce 5 décembre 1700. Lettre 158. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil, à son réveil. Eh bien, marquise, comment vous trouvez-vous des plaisirs de la nuit dernière? N'en êtes-vous pas un peu fatiguée? Convenez donc que Danceny est charmant. Il fait des prodiges, ce garçon-là. Vous n'attendiez pas cela de lui, n'est-il pas vrai? Allons, je me rends justice. Un pareil rival méritait bien que je lui fusse sacrifié. Sérieusement, il est plein de bonnes qualités, mais surtout, que d'amour, de constance, de délicatesse. Ah, si jamais vous êtes aimé de lui, comme laissa Cécile, vous n'aurez point de rivales à craindre. Il vous l'a prouvé cette nuit. Peut-être, à force de coquetterie, une autre femme pourra vous l'enlever un moment. Un jeune homme ne sait guère se refuser à des agaceries provocantes. Mais un seul mot de l'objet aimé suffit, comme vous voyez, pour dissiper cette illusion. Ainsi, il ne manque plus que d'être cet objet-là, pour être parfaitement heureuse. Seulement, vous ne vous y tromperez pas. Vous avez le tact trop sûr pour qu'on puisse le craindre. Cependant, l'amitié qui nous unit, aussi sincère de ma part que bien reconnue de la vôtre, m'a fait désirer pour vous l'épreuve de cette nuit. C'est l'ouvrage de mon zèle, il a réussi. Mais point de remerciement, cela n'en vaut pas la peine. Rien n'était plus facile. Au fait, que m'en a-t-il coûté? Un léger sacrifice et quelque peu d'adresse. Je consentis à partager avec le jeune homme les faveurs de sa maîtresse. Mais enfin, il y avait bien autant de droits que moi, et je m'en souciais si peu. La lettre que la jeune personne lui a écrite, c'est bien moi qui l'ai dictée. Mais c'était seulement pour gagner du temps, parce que nous avions à l'employer mieux. Celle que j'y ai jointe, oh, ce n'était rien, presque rien. Quelques réflexions de l'amitié pour guider le choix du nouvel amant. Mais en honneur, elles étaient inutiles. Il faut dire la vérité, il n'a pas balancé un moment. Et puis dans sa candeur, il doit aller chez vous aujourd'hui vous raconter tout. Et sûrement ce récit-là vous fera grand plaisir. Il vous dira « Lisez dans mon cœur ». Il me le demande, et vous voyez bien que cela raccommode tout. J'espère qu'en y lisant ce qu'il voudra, vous y lirez peut-être aussi que les amants si jeunes ont leur danger. Et encore, qu'il vaut mieux m'avoir pour ami que pour ennemi. Adieu, marquise, jusqu'à la première occasion. Paris, ce 6 décembre 1700. Lettre 159. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont, billet. Je n'aime pas qu'on ajoute de mauvaises plaisanteries à de mauvais procédés. Ce n'est pas plus ma manière que mon goût. Quand j'ai à me plaindre de quelqu'un, je ne le persifle pas. Je fais mieux, je me venge. Quelque content de vous que vous puissiez être en ce moment, n'oubliez point que ce ne serait pas la première fois que vous vous seriez applaudi d'avance. Et tout seul, dans l'espoir d'un triomphe qui vous serait échappé à l'instant même où vous vous en félicitiez. Adieu. Paris, ce 6 décembre 1700.